Il y a des titres de films plus éloquents que d'autres, dans le cas de la pornographie. Et même si on ne s'attend généralement pas à du Ronsard ni à un petit traité sur l'égalité entre les genres, les titres de vidéos en ligne annoncent la couleur. Il viole sa femme de ménage, Latina abuse, baiser fatal ou pardon pour le spoil, ça se finit pas super bien pour la fille. Une érotisation du viol et des rapports de domination qui brouille parfois les lignes entre la fiction et la réalité et qui interroge aussi les conditions de tournage du porno, qu'il soit traditionnel ou amateur. Le mouvement MeToo a eu tendance à faire un sort un peu rapide aux travailleuses du sexe, mais il a aussi remis en lumière une autre façon de montrer le sexe qui s'incarne dans le porno féministe. Pornographie et féminisme, oui, c'est une association de mots qui interpelle, qui bouscule et qui dérange aussi. Comment filmer le sexe en 2019? À quoi ressemble la pornographie quand elle place le consentement au cœur de son récit? Du cul, mais pas que, jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Et pour débattre de ce sujet très chaud, et j'assume le jeu de mots paresseux et un peu nul, il me fallait bien quatre invités. Olympe de G, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes réalisatrice de films et de podcasts pornographiques. Vous nous direz un peu plus tard ce que c'est que le porno auditif, c'est très intriguant. Et vous travaillez en ce moment sur votre prochain film qui s'appelle Salomé. Moi je connais le pitch, mais vous le ferez mieux que moi, ça va parler de quoi Salomé?
Salomé, c'est l'histoire d'une femme qui a 73 ans, qui a décidé de mettre fin à ses jours pour tout un tas de raisons. La principale étant qu'elle trouve que notre société ne prend pas bien en charge ses vieux. Donc voilà, elle est en train de se demander ce qu'elle va faire de la dernière année de sa vie. Et c'est une femme qui a toujours aimé le sexe. Et au fil des années qui ont passé, elle a pris de plus en plus de plaisir à jouir de son corps et de celui de ses amants. Et donc, elle planifie la dernière fois qu'elle fera l'amour.
Elle prépare sa dernière fois comme on prépare sa première fois quand
Exactement.
On est ado. Alors, c'est pas pour faire du rabattage, mais vous avez lancé une campagne de financement participatif. Et il y a juste un détail qui me plaît beaucoup, c'est que les contributeurs peuvent avoir la chance d'avoir leur nom au générique et surtout une superbe casquette Make Porn Great Again.
Oui.
Ça marche toujours.
Il y a aussi le sweatshirt Think Outside the Cox. Il y a tout un tas de...
Et c'est sur Kiss...
C'est fini. C'était sur Kiss Kiss
Bang
Bang. C'est clos. Ça a été un grand succès. On a rassemblé 24 000 euros. Donc
bientôt
voilà.
Sur les écrans. À côté de vous, Robin D'Angelo, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'être là. Vous êtes journaliste. Vous avez infiltré pendant un an le milieu du porno amateur français et ça a donné une enquête assez édifiante. C'est Judy, Lola, Sophia et moi aux éditions Goutte d'Or. C'est assez mystérieux. Comment est-ce qu'on infiltre le porno amateur? On se fait passer pour quoi?
Alors,
un perchiste, un acteur, pourquoi?
C'est pas vraiment une infiltration, c'est plus une immersion. Où dans le sens, je me suis présenté à 90% des cas comme journaliste. Et au fur et à mesure, on tisse des liens avec les personnes. Et j'en suis venu à être cadreur sur 2-3 scènes, à être figurant dans des scènes pour Dorcel notamment. Voilà, tout un tas de choses qui m'a permis...
Et à recueillir des témoignages.
Évidemment, et tout ça dans l'optique de pouvoir recueillir des témoignages et raconter un petit peu cette fabrique du porno mainstream un peu dégueu que tout le monde regarde, mais dont finalement on investit assez peu.
On va essayer de donner une définition au porno mainstream et au porno féministe. En studio, avec nous également Céline Pic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme, qui, ça tombe bien, travaille en ce moment avec ses adhérentes sur la pornographie. Le résultat des analyses, des enquêtes, des études, ça va être rendu public en septembre prochain.
En septembre, il y aura un journal spécialement consacré à la question de la pornographie.
Et en duplex depuis Berlin, David Courbet nous a rejoint. Bonjour David.
Bonjour.
Vous êtes journaliste vous aussi et vous avez publié en 2012 un essai Féminisme au pluriel et pornographie à la Musardine en 2012 et une version enrichie en 2017. Le porno et les femmes, c'était aussi le sujet de votre mémoire à Sciences Po. Vous auriez un léger goût pour la provoque, que ça m'étonnerait pas tellement. Et j'en profite
pour
confirmer. Et j'en profite pour remercier notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu, qui nous permet d'assurer la liaison avec vous. Ça va pas vous étonner. Alors, le sexe et les représentations, ça a mobilisé les auditeurs plus que le troisième âge et les retraites dont on a parlé il y a deux semaines. On a reçu déjà énormément de questions et d'avis et d'interrogations. Et je voudrais qu'on ouvre ce débat avec une question qui est très pertinente, posée par Joanne, une jeune fille de 22 ans, qui demande ceci. Pourquoi se sent-on coupable quand on regarde un porno, Robin D'Angelo? Il y a ce sentiment-là, cette culpabilité quand on regarde un porno dont on dit pourtant aujourd'hui qu'il est massifié, accessible à tout le monde, donc généralisé, on regarde tous du porno. Et on est tous coupables?
Je pense que ça fait appel à une contradiction souvent. Enfin, moi, par exemple, que j'ai ressenti et qui m'a aussi donné envie d'écrire ce livre, c'est que je me sens considère plutôt de sensibilité féministe, pro-féministe. Mais effectivement, je regarde occasionnellement du porno mainstream qui l'est pas du tout. Et effectivement, cette contradiction fait qu'on peut se sentir parfois mal à l'aise avec ça. Je pense que ça peut venir de là, oui.
Ça veut dire qu'on est sur un enjeu moral, David Courbet, quand on s'interroge sur ce type de contradiction personnelle ou ce genre de dilemme. On est sur le champ de la moralité. David.
La question des sentiments, de l'intime, et donc ça reste cantonné à la sphère privée. Donc, à partir de là, on est toujours un petit peu gêné quand on parle de sexualité, quand on la montre et dire à tout le monde, oui, je suis fier d'avoir regardé un porno. Ce qui se fait quand même, par contre, bien plus aujourd'hui qu'il y a encore quelques années où les cassettes s'échangeaient.
Les VHS.
Tout à fait, oui. Et puis alors maintenant, les liens s'envoient directement, on va dire, de manière un petit peu moins cachée.
Olympe de
G. C'est un petit peu plus assumé aujourd'hui.
Ouais, Olympe de G, c'est tabou le porno, y compris pour les femmes. Il y a ce chiffre dont on parle souvent, qui dit qu'une femme sur quatre consomme du porno et qui suscite à chaque fois une sorte de petite gêne dans l'auditoire, comme si c'était encore plus tabou pour les femmes que pour les hommes.
J'en ai pas l'impression, franchement. En revanche, moi, cette question de la honte après avoir regardé un porno, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est vraiment, c'est vraiment mon cheval de bataille de créer un porno qui fasse qu'on se sente bien. C'est-à-dire un porno qui fasse du bien autant aux personnes qui le font qu'aux personnes qui le regardent. Et justement, arrêter d'avoir ce rapport comme ça de honte, voire de mépris vis-à-vis de tout ce qui a trait à la sexualité. Je pense qu'il est possible de faire un porno qu'on regarde et après, qui nous renvoie des valeurs positives.
On va continuer à parler de porno avec la musique qui va bien. Évidemment, on s'en est pas privé. Serge Gainsbourg, Love on the Beat. Dans le débat de midi, aujourd'hui, on déshabille le porno. L'émission est préparée et effeuillée par Camille Kaufmann.
Dans le monde du porno amateur, on n'est que de la chair fraîche. C'est toujours la même rengaine. C'est toujours des histoires de vierges.
Je peux vous aider ?
Excusez-moi, je peux plus ouvrir ma voiture. Vous auriez un téléphone ?
Ouais, je bosse juste à côté.
T'es pas très maligne. T'as besoin de $500 et du coup, tu couches avec ce mec, tu dis des choses que tu dirais jamais, fais des choses que tu ferais jamais.
Si je t'aide, j'aurai quoi en retour ?
L'important, c'est que le mec prenne son pied. La fille n'est qu'un accessoire.
On vient d'entendre dans un très mauvais doublage Ava Taylor, c'est un extrait du documentaire Hot Girls Wanted réalisé par Rachida Jones. C'était en 2015, il explorait les coulisses du porno amateur et c'est un documentaire qui est assez perturbant parce qu'il comportait notamment des récits très crus d'agressions sexuelles, en tout cas de ce qui pouvait se passer sur les tournages. Robin D'Angelo, dans votre livre Enquête, il y a des témoignages qui sont eux aussi dérangeants. Vous citez par exemple un réalisateur très connu qui dit à une actrice qui a peur d'avoir mal avant le tournage d'une scène « Tu crois qu'une patineuse, elle se fait mal à la cheville, elle se fait jamais mal à la cheville ». On est à ce niveau de cynisme et de cruauté. Et là, je précise que c'est un réalisateur homme et une actrice femme.
Ouais. Ben, cette scène est très perturbante aussi parce que on est dans un tournage, un contexte où c'est plutôt assez propre, où c'est assez calme. Le réalisateur en question, c'est John Birut. C'est quelqu'un qui a une bonne réputation dans le milieu, qui est plutôt en vrai sympa avec les actrices, qui fait appel à des maquilleurs, à des cadreurs professionnels. Mais même dans ce contexte qui va plutôt être clean, et ben on arrive à cette situation où une actrice qui, parce que la veille au téléphone lui avait dit OK pour une scène anale, bah sur le moment elle n'en veut plus parce qu'en fait ça lui fait mal à partir du moment où elle démarre, elle est finalement obligée de la faire. Et c'est intéressant, ça montre.
C'est pas la définition totale et complète du viol, c'est-à-dire un acte sexuel sous la contrainte.
Ça l'est.
Que ce soit économique ou pas, mais un.
Effectivement, ça rentre dans le cadre d'une agression sexuelle. Ça pourrait donner suite, pourquoi pas, à des procédures ou à ce genre de choses. Et en fait, mais voilà, et l'actrice se sent au final obligée de dire oui. Pour le producteur, ça fait partie du contrat puisque le métier d'actrice porno, c'est d'accepter une pratique sans la désirer, sans le vouloir, sans plaisir. Et donc à partir de ce moment-là, le producteur estime que c'est normal que l'actrice fasse cette scène alors qu'elle n'en a pas envie.
Et là, on est donc dans ce qu'on appelle le mainstream, qu'on peut définir juste en deux mots.
C'est le porno que tout le monde, en tout cas celui qui est diffusé en majorité sur YouPorn, Pornhub, ce genre de scène.
Gratuit, non ?
Gratuit ou payant, ça existe dans les deux cas, qu'ils soient aussi amateurs ou scénarisés. Voilà.
Olympe de G, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que le mouvement MeToo, énorme et vaste, et laisser les actrices porno à la porte alors qu'elles ont été les premières à dénoncer des faits d'agression et de harcèlement sur le tournage, ça n'a pas du tout les mêmes effets. C'est comme si questionner le consentement et la violence dans le porno, c'était finalement absurde et pas si intéressant.
J'ai pas cette impression, parce que moi je me rappelle avant MeToo de Stoya, qui est une actrice très connue américaine, qui dénonçait des agressions sexuelles, voire des viols.
En 2015.
J'ai ces souvenirs-là. Enfin, sur les réseaux sociaux, après j'ai plus les noms en tête, mais j'ai le souvenir de plusieurs actrices qui se sont insurgées. Après, est-ce que l'industrie du porno mainstream va assez vite pour rectifier les conditions de travail, faire en sorte que ce genre de choses n'arrive pas? Ça, je n'en sais rien. Je ne fais pas partie de l'industrie du mainstream.
Oui, ça, vous êtes jamais passé par là.
Pas du tout, du tout. Voilà. Moi, j'ai bien connaissance de ce type de situation horrible, et c'est justement ce que j'essaie de faire, c'est que ça n'arrive pas sur mes tournages.
On va développer ça. David Courbet, vous voulez intervenir?
Mais il y a justement un point, parce que il faut pas oublier que ce sont des travailleurs et travailleuses du sexe, et qu'à partir du moment où elles sont de toute manière marquées avec le fer rouge sur le front, travailleurs, travailleuses du sexe, on ne les prend pas non plus au sérieux. C'est des personnes qui ont été jusqu'à présent très...
Quand vous dites on, c'est qui ?
Les différents milieux, même les milieux associatifs et féministes, militants, ça a toujours été une question qui a divisé tous les mouvements féministes, on va revenir dessus, j'imagine.
Bien sûr.
Mais ça a été toujours une question délicate, et ces personnes-là se sont toujours retrouvées toutes seules, et jusqu'à aujourd'hui encore, il est très compliqué pour les travailleurs et travailleuses du sexe d'avoir accès à une défense équitable et d'être pris au sérieux dans le débat public.
Un deux poids deux mesures, donc.
Tout à fait.
Céline Pic.
Je voulais effectivement rebondir par rapport à la question du porno mainstream. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. En particulier, il faut citer Gail Dines, qui est une chercheuse américaine à Boston, qui travaille depuis 30 ans sur la question de la pornographie, et qui, selon les études qui ont été faites, montre que 88% des films mainstream contiennent des scènes de violence sexuelle. Donc la question effectivement de comment une femme en pornographie peut effectivement dénoncer des actes de violence sexuelle, alors qu'en fait, c'est même le cœur de la pornographie mainstream, ce sont des scènes de violence sexuelle pour beaucoup. Quand on parle de double pénétration anale, donc quand on parle de gagging par exemple, quand on parle de BDSM qui sont extrêmement violentes, on a vraiment aujourd'hui une surenchère sur la question du porno mainstream et les empires aujourd'hui pornographiques qui se sont construits, en particulier par exemple MindGeek, qui est un empire.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors MindGeek, c'est l'empire numéro un du porno, basé dans un paradis fiscal extrêmement opaque, qui a des une culture d'entreprise à la limite mafieuse et qui aujourd'hui a construit son empire d'abord en diffusant des contenus qui ne lui appartenaient pas pour pousser ensuite les sociétés de production à la faillite pour ensuite les racheter et ensuite ils se sont fait un nom et cet empire qui comptabilise 115 millions de personnes par jour sur leur site internet en allant dans toujours plus de violence. Et on est aujourd'hui à des niveaux de violence dans le porno mainstream qu'on peut qualifier quasiment de torture sexuelle, avec des dégâts physiques et psychiques extrêmement durs sur les femmes qui sont en pornographie. En particulier, je parlerai par exemple du prolapsus anal, qui est aujourd'hui quelque chose de récurrent.
Une blessure physique
grave. C'est-à-dire qu'il y a une descente d'organes, le rectum, en fait, se désagrège sous la répétition des pénétrations extrêmement violentes.
Romain D'Angelo, c'est la massification du porno qui a dégradé les conditions de travail des acteurs dans le porno mainstream, encore une fois, parce qu'on va vraiment évoquer le porno féministe et éthique, ou ça a toujours été comme ça ?
Je pense que ça a toujours été comme ça. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle The Other Hollywood, l'histoire du X américain par ceux qui l'ont fait. Et on voit que dès les années 70, cette époque qui est très mythifiée, il y avait aussi ces conditions de tournage très très dures, très violentes. Je voulais rebondir aussi sur ce qu'on expliquait, sur l'absence, par exemple, du mouvement MeToo, assez peu présent dans le porno. Moi, il y a une discussion qui m'a marqué lors de mon immersion sur le livre, c'est je rencontre une actrice qui vient juste de faire sa première scène pour Jackie et Michel. Je la rencontre dans une chambre d'hôtel avec une autre actrice, voilà. Et elle commence à me raconter sa vie. Elle m'explique qu'elle, en fait, elle a été abusée par sa mère pendant toute son enfance, de ses 7 à 13 ans. Et qu'elle me dit, de toute façon, moi, que je veuille ou pas, que ça me fasse plaisir ou pas, j'ai connu que ça, en fait. Enfin, j'ai été habitué à ça. Donc, au final, elle voit pas forcément ce qu'il y a à dénoncer, puisque, d'une certaine façon, pour elle, c'est presque normalisé, en fait, cette violence sexuelle. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve, alors je veux pas faire de généralité, mais beaucoup d'actrices que j'ai rencontrées ont subi des violences sexuelles dans leur enfance. Et voilà, il y a cette normalisation de la violence qui est assez présente chez elles et qui peut-être les empêche parfois de dénoncer un problème ou de voir le problème.
Ce qu'on appelle la dissociation traumatique.
C'est d'un pic, oui.
Ce phénomène est extrêmement présent aussi bien dans la pornographie que dans la prostitution. C'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Il faut écouter bien sûr le docteur Muriel Salmona qui en parle très bien. Et le fait d'avoir subi des viols dans l'enfance permet d'avoir une forme de déconnexion de l'esprit avec son corps et de pouvoir, en fait, effectivement, encaisser cette violence sexuelle à répétition.
David Courbet, l'objectivation des femmes, ça commence dans le porno ou c'est de là que naissent les violences ou
alors déjà,
ou
juste, d'autres... j'aimerais bien rebondir sur le fait que, alors, de parler de généralité, la violence a toujours effectivement existé, mais ça dépend énormément des conditions de travail et qui se sont vraiment dégradées depuis une dizaine, quinzaine d'années, surtout depuis l'émergence d'Internet, la massification et surtout la gratuité de la pornographie qui fait que les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du sexe se sont vraiment dégradées, ce qui fait qu'aujourd'hui les personnes sont payées beaucoup moins, tout doit être fait beaucoup plus rapidement, bâclé, sans souvent effectivement écouter quels sont les désirs et les plaisirs de chacun. Donc ça, déjà, c'est des situations qui aujourd'hui se sont dégradées, surtout parce qu'on demande une massification, toujours plus, toujours nouveau.
La demande.
Après, par contre, par rapport à ce que dit Madame Pic, il faut pas non plus généraliser de dissociation des corps, etc. Il y a toujours eu depuis les années 70 ce débat qui était très présent entre pour et contre. Au sein même de l'industrie pornographique, il y a toujours eu des actrices qui effectivement se sont plaintes et à juste titre parce que les conditions de travail étaient déplorables. Je pense à Linda Lovelace, par exemple, un des premiers pornos des années 70.
Il y a longtemps,
Et qui a été ensuite une figure de coup du mouvement abolitionniste.
Qui est décédée,
contre. Oui, mais peu importe. Mais à partir du moment où c'était elle qui était une figure de proue qui était mise en avant par le mouvement abolitionniste pour dire, regardez, la théorie, c'est la pornographie, la pratique, c'est le viol. En l'occurrence, il y a eu beaucoup d'autres aussi personnes qui, depuis, acteurs, actrices, ont dit qu'elles ont fait ça avec plaisir, n'ont pas eu d'atteinte physique ni morale dans leur vie. Tout le monde n'a pas été violé
dans
son enfance.
Toutes les actrices ne sont pas traumatisées par les tournages.
Non, il ne faut pas sortir les clichés qu'on entend.
Il y a des statistiques,
surtout, non mais
Il y a des statistiques quand même sur la prévalence.
On laisse finir David Courbet. Oui.
C'est juste que du coup là-dessus, on a un double discours féministe. Non mais on a un double discours féministe, c'est-à-dire que on dit que quand une femme dit non, c'est non, mais quand elle dit oui à la pornographie, ah bah là forcément, bah non, en fait c'est non parce qu'elle est aliénée, elle est pas bien. Il faut savoir, est-ce qu'on a une vision aussi soi-même paternaliste vis-à-vis de la pornographie quand on est féministe pour dire que ah bah oui, mais une personne, non, ça ne tient pas non plus la route. Il faut écouter toutes les personnes et même si ce n'est pas effectivement la généralité.
La majorité, oui.
La majorité des personnes, mais il ne faut pas balayer tout de la main.
Robin D'Angelo, puis après je voudrais entendre Hollande de G sur la gratuité, je vous voyais accesser. Robin D'Angelo.
Je voulais rebondir sur la notion de oui dont parlait David, que des actrices disent oui et font ça avec plaisir. Moi ce que j'ai remarqué là-dessus et qui m'a quand même pas mal marqué, c'est à quel point finalement ce consentement, ce oui, n'était pas forcément une condition suffisante à un travail égalitaire, un travail qui se passe bien. Un exemple tout bête, je sais pas, une actrice moi qui me raconte comment elle est rentrée dans le porno, c'est des histoires d'argent qu'elle doit par exemple un dealer parce qu'elle est beaucoup en teuf, tout ça, et en fait l'actrice me dit j'ai ce plan par une copine, je vais le faire, mais je le fais absolument pas pour le plaisir, je dissocie complètement sexualité et plaisir. Et finalement est-ce qu'elle est égale dans son consentement par rapport à une autre personne qui va dire oui juste par un plaisir? C'est pas suffisant, en fait,
placée pour le savoir,
effectivement, mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est qu'on tout le monde n'est pas forcément égaux sur égal sur la question de consentement, en fait.
Céline Pic trépigne et lève le doigt.
Oui, je pense que c'est pour ça qu'il faudrait peut-être parler de désir plutôt que de consentement, parce que le consentement est un peu piégeux, parce qu'en fait le consentement il peut être extorqué par rapport à un contexte vulnérabilisant, et on voit très bien dans votre livre qu'on a essentiellement des femmes qui ont eu des parcours de vie extrêmement difficiles, précarité économique, précarité financière, et puis passé de violences sexuelles, et ce contexte vulnérabilisant peut permettre d'arracher un consentement qui est un consentement non pas libre et éclairé, et le désir n'est pas là. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est dit très souvent par les féministes, céder n'est pas consentir. Voilà. Et je pense que beaucoup de l'essentiel des femmes, et en tout cas celles que vous montrez dans votre livre, c'est des femmes qui cèdent parce que elles sont forcées par leur précarité économique ou par leur situation familiale ou traumatique extrêmement difficile. Et par rapport à, il faut pas tomber dans le cliché, il y a aussi une étude de Geldzahn qui montre qu'il y a 42% des femmes en pornographie qu'elle a interrogée dans une grande enquête sociologique, qui a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Donc on peut quand même s'interroger, statistiquement parlant, pourquoi, grosso modo, une femme sur deux dans la pornographie mainstream a été violée dans l'enfance. Ça nous interroge, et on est, quand on est féministe, on doit s'interroger sur cette prévalence des violences sexuelles dans le passé des femmes en pornographie.
Une réaction de David Courbet, puis après on va vraiment s'intéresser à l'antidote que représenterait le porno féministe. David Courbet, on vous écoute.
Bien sûr, il ne faut pas idéaliser, bien sûr, la recherche du plaisir absolu. C'est souvent une recherche aussi de célébrité, de l'appât du gain, d'une construction de personnalité aussi pour certaines personnes.
Comme dans beaucoup d'autres métiers.
C'est bien là le problème principal, c'est-à-dire que si les conditions de travail aussi sont mauvaises et si les personnes recherchent le gain, la personnalité, la construction, ça fait partie d'un système plus global qu'on appelle le système capitaliste. Et voilà. Et là, en l'occurrence, c'est un métier que certains considèrent comme un autre. Mais pour des questions morales, certaines personnes sont un petit peu plus gênées. Effectivement, ça peut poser question. Mais en attendant, à partir du moment où il y a des règles, des chartes qui sont mises en place, pourquoi ne pas accepter qu'un tel métier soit fait ? Après, il faut des garde-fous sur la question du consentement, parce que le consentement est nécessaire et primordial dans toute production pornographique.
Ouais, là, on se concentrait sur... Romain D'Angelo, une toute petite réaction.
Non,
on se concentrait sur le porno mainstream, et là, pour le coup, on sait où le trouver, voire il vous trouve, hein, parce qu'on est tous, on a tous reçu des messages ou des publicités de porno qu'on n'a pas demandé. Le porno féministe, Olympe de G, où est-ce qu'on le trouve ? Sur Internet ? Je vais le chercher où ?
Bien sûr, les sites de productrices et réalisatrices féministes. En fait, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche est notre ami. En tapant pornographie féminine ou féministe, on va trouver toute une galaxie en fait de femmes qui créent leur propre contenu.
Erika Lust, la plus connue.
Tout à fait. Lucie Bloch, qui est une Française. Après, il y en a partout, hein, aux États-Unis, en Europe. Après, moi, sur tout ce qui vient d'être dit, j'aimerais quand même apporter une nuance, parce qu'on tape beaucoup sur le porno mainstream. Moi, je pense, je sais pas, aux figures françaises qu'on connaît toutes et tous, par exemple Ovidie ou bien Nikita Bellucci. Je n'ai pas l'impression que ces personnes soient des victimes d'un système, enfin d'abus, etc. Moi, je vois plutôt des femmes qui ont décidé de faire carrière dans le travail du sexe, pour qui c'est un vrai choix militant de féministe pro-sexe, qui est un courant du féminisme qui a toute son, comment dire, qui a toute sa valeur aussi, hein. Et je trouve dommage qu'on victimise forcément les femmes qui font ce choix-là. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des abus, des problèmes de consentement, hein, dans la pornographie mainstream, évidemment que ça arrive. Mais j'aimerais aussi qu'on entende ces femmes qui, même dans le porno mainstream, hein, pas dans le porno féministe, ont trouvé une façon de s'épanouir et voilà, et ont fait ce choix. Voilà.
Céline Pic, féminisme pro-sexe, ça s'oppose au féminisme que vous défendez? C'est une opposition qu'on a tendance à construire de temps en temps?
Le féminisme pro-viol plutôt. Enfin, je pense sincèrement que là, on dit quand même des choses qui sont sur lesquelles je suis pas tout à fait d'accord non plus. C'est que Oser le féminisme s'est fait connaître en 2011 quand on a lancé une campagne qui s'appelait Oser le clito. Et en fait, je pense pas qu'il y ait le féminisme pro-sexe et le féminisme anti-sexe. Oser le féminisme défend une position extrêmement claire sur la question la découverte du désir féminin. Par exemple, de parler de clitoris. Donc, par exemple, on fait des interventions dans les écoles. Je vais vous raconter une anecdote extrêmement simple. On sait que environ 30 à 40% des enfants de 14 ans ne savent pas où est leur clitoris. C'est quand même important pour accéder au désir, au plaisir, de savoir où est son clitoris. Par contre, ces mêmes adolescentes de 13 et 14 ans, lors d'une intervention scolaire, on m'a rapporté un propos extrêmement simple d'une petite fille qui était en quatrième et qui a demandé « Est-ce que lors de mon premier rapport sexuel, je serai obligée d'accepter sodomie et jacques facial ?»
Rappelez quel âge ?
Quatrième.
Donc 13-14 ans.
13-14 ans, donc elle, on parle d'enfants qui, en guise d'éducation à la sexualité, ont pour modèle des pratiques qui sont extrêmement violentes. Et par contre, à côté de ça, on voit qu'il y a une totale méconnaissance, par exemple, du clitoris. On ne parle jamais de comment une femme jouit. Le clitoris est grosso modo le grand absent de la pornographie, qu'on appelle mainstream, mais qui est l'essentiel de la pornographie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire un travail de réhabilitation du désir féminin, de comment les femmes jouissent. Et les femmes ne jouissent pas par la violence sexuelle.
Mais je crois que c'est exactement la définition du féminisme pro-sexe, en fait. Je vois pas, en fait, en quoi le fait de promouvoir la sexualité féministe et le droit d'une femme à disposer de son corps comme elle le souhaite encourage le viol. En
non,
fait, c'est tout à fait
l'inverse. Je parlais de la pornographie mainstream qui, je pense, érotise la violence sexuelle, en fait. Et je pense qu'on peut avoir une sexualité joyeuse avec tout un tas de fantasmes. Mais là, dans la pornographie mainstream, les fantasmes sont systématiquement la reproduction de scènes de domination masculine sur les femmes, et donc on s'enferme effectivement dans une représentation de la sexualité qui est finalement le prolongement de ce que nous dit le patriarcat depuis 5000 ans, c'est-à-dire l'objectivation des femmes, et donc on réduit la sexualité à quelque chose d'extrêmement triste et extrêmement violent.
David Courbet, le porno c'est le viol et c'est que ça?
Non, Madame Pic, déjà, systématiquement, alors en grande majorité, la production mainstream peut être sexiste, voire misogyne, ça tout à fait.
Merci.
Mais mettre de côté, toute la production gay ou BDSM avec des positions femmes dominantes au sein même des scènes,
ça
inverse
aussi
les rôles, et ça existe tout à fait.
Mais pas majoritaire.
Juste, on est tout à fait, pas majoritaire, ça dépend où c'est que vous regardez, quel type de pornographie.
Vous donnerez vos adresses plus tard, mais
et voilà, oui, tout à fait. De l'autre côté, on est tout à fait d'accord, et vous avez tout à fait raison à Oser le féminisme, de promouvoir le clitoris, de le découvrir, de savoir comment le mettre en action, et etc. Mais c'est une thématique que vous venez à peine de découvrir. Les féministes pro-sexe dont parlait Olympe de Gé, justement, dès les années 70-80, étaient les premières et les seules à parler de ces thématiques-là. Annie Sprinkle, quand elle a demandé à un public de regarder au sein même de son vagin pour regarder à quoi ressemble mon vagin, regarder à quoi ressemble le clitoris, ça date des années 70-80.
On n'a pas attendu Oser le féminisme pour ça, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Et donc, ce sont ces réalisateurs réalisatrices.
Bah, oui, mais ce sont ces réalisatrices.
Oui, mais il y avait d'autres sections féministes en France qui étaient sur la même position.
Le féminisme,
qui était sur la même position abolitionniste.
On ne vous entend pas si vous parlez en même temps. David Courbet, oui.
Les autres associations féministes à l'époque en France ne se sont jamais vraiment intéressées à ces thématiques-là, poussées par des réalisatrices et des activistes d'abord américaines dès les années 70-80 et seulement à partir du début des années 2000 en France, grâce à des universitaires, des personnes comme Virginie Despentes ou des anciennes actrices qui sont devenues réalisatrices.
Ouais, on
parlait tout à l'heure, par exemple.
Romain D'Angelo.
Ouais, moi je veux revenir là-dessus. J'ai voulu écrire un livre sur le porno mainstream parce que je trouve justement que les exemples que David donne, qui sont vrais et qui sont très pertinents, représentent quand même quelque chose de marginal. Et en fait, il y a ce porno que tout le monde regarde, qui est quand même assez trash, et que finalement on investit peu, on en parle assez peu.
On en parle que pour évoquer les effets sur les mineurs.
Exactement.
D'autres aspects.
Où on va le comparer toujours avec un porno alternatif qui serait valorisant dans un espèce de combat. Et en fait, non, c'est complètement inégalitaire. De toute façon, dans une société qui est inégalitaire entre hommes et femmes, forcément, le porno mainstream que tout le monde va regarder va être de cette façon-là. Je voulais juste dire ça par rapport à ce débat où vous répondez, mais des fois, j'ai l'impression que ça peut pas forcément avancer, vu que vous parlez pas forcément de la même chose. Je voulais revenir sur un truc sur la victimisation des actrices dont parlait au Olympe. Je pense, à mon sens, que finalement, ces actrices, ces femmes, elles font des choix qui leur sont propres et chacun fait un peu ce qu'il veut dans la vie pour essayer de se valoriser, essayer d'avoir un statut, essayer de gagner de l'argent. Il y a plein de raisons pour le faire, mais faut peut-être inverser le point de vue et s'intéresser aux mecs qui font le porno. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, pour moi, le sens du problème, c'est que c'est des mecs qui vont gérer ce porno et qui vont souvent abuser de situations parce qu'ils ont une domination économique, une domination aussi dans les fantasmes.
Oui, c'est l'organisation de l'industrie qu'il faudrait
exactement
interroger.
Et pour plein d'actrices, je suis le premier à le dire, il y avait des actrices pour qui ça a été positif et même des actrices qui ont des vécus très très durs, faits de violence, de viol, mais qui finalement vont devenir quelqu'un, vont trouver une identité dans la société. Mais le problème, c'est qu'en face, les personnes qui tiennent les rouages de cette machine vont toujours abuser et aller toujours plus loin et souvent à leur détriment.
David Courbet, très très vite.
Oui, Robin a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la pornographie mainstream principale aujourd'hui est faite par des hommes pour des hommes. Donc à partir de là, effectivement, les plaisirs et les désirs féminins sont mis de côté.
Et Olympe de G, réalisatrice de porno, est là pour contredire tout ça. On continue à en parler et c'est juste après Aloïse Sauvage à l'horizontale.
T'es à demi penché, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque. Les fous prennent tous les risques. L'accès au palier va me faire pâler de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale. Sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Parce que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras m'entourent, mais tantôt je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la. là c'est non, moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant. Le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
Aloïse Sauvage, à l'horizontale, la programmation musicale du débat de midi est signée Thierry Dupin tout le mois d'août.
Le débat du midi, Nadia Dame sur France Inter.
Et le débat de midi consacré à la pornographie continue, à la pornographie éthique et féministe. Olympe de Gée, d'après la chercheuse américaine Olivia Tarplin, pour être féministe, un film doit obéir à trois règles au minimum. Les femmes doivent être au cœur des interactions, le plaisir féminin doit paraître réel, l'air pas d'exagération, et doit y avoir une représentation paritaire des genres. C'est ça le schéma du porno féministe, où c'est beaucoup plus souple et moins...
Oui, je trouve que la représentation paritaire des genres n'est pas forcément nécessaire. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir de porno féministe lesbien.
Oui, aussi.
Enfin, je ne sais pas.
Et mais bon, autre question, est-ce qu'il faut être une femme pour produire du porno féministe? Question naïve peut-être, mais...
Je dirais que pour le moment, oui, c'est mieux. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas être féministes. Je dis juste que dans une industrie qui est majoritairement masculine, c'est quand même vachement bien d'avoir des regards féminins.
De vous laisser le temps de commencer un peu.
Voilà. Je pense que peut-être dans un second temps, on pourrait être hommes et femmes à tous joyeusement faire du porno-féminisme. Mais pour l'instant, je pense que c'est bien de laisser la place aux femmes.
David Courbet, est-ce qu'il faut chercher les spectateurs, le public du porno mainstream pour l'amener vers ce porno inclusif, éthique, féministe?
Alors le chercher, qu'est-ce que vous entendez par le chercher?
Le conduire, le stimuler sa curiosité, lui dire que peut-être il y a autre chose à regarder en termes de production pornographique.
Eh ben déjà, j'espère que cette émission permettra peut-être
ça sert
de faire.
À ça, oui.
Après, de l'autre côté, non, c'est
le
aussi
convertir, si voilà, c'est le mot est plus clair. Est-ce qu'il faut convertir le public du porno mainstream et hardcore à un porno plus respectueux et éthique?
Alors déjà, hardcore ne veut pas nécessairement ne pas dire éthique, parce qu'il existe de la pornographie éthique et qui a trait à l'hardcore, hein, donc avec des situations de BDSM. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Des réalisatrices, Madison Young par exemple, voilà, qui fait du BDSM. Donc c'est pas pour autant parce qu'il y a de la violence que nécessairement ce n'est pas éthique. Une fois de plus, c'est la question du consentement, de savoir comment sont faites les conditions de travail, comment sont traités les travailleurs et travailleuses du sexe.
La question des représentations et de la diversité aussi peut être des corps qui sont donnés à voir. C'est aussi
oui,
un enjeu.
Oui, parce que la pornographie féministe n'a pas pour ambition seulement de toucher les femmes ou les féministes, bien entendu que non. C'est-à-dire, elle veut s'adresser à un public beaucoup plus universel, notamment des femmes. Mais il y a aussi un marché de couple, il y a un marché aussi homosexuel. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne se retrouvent pas dans la pornographie mainstream et qui peuvent se retrouver dans quelque chose de plus égalitaire, de plus universel.
Romain D'Angelo, dans quel sens il faut prendre les choses? Il faut que la société évolue pour que le porno évolue, ou c'est l'inverse? Le porno peut in fine rendre la société plus égalitaire, plus ouverte?
Je dirais un petit peu des deux. Le porno peut être un outil, effectivement, pour valoriser certaines pratiques sexuelles et pourquoi pas faire réfléchir les gens à ce qu'ils font au lit. Et à l'inverse, effectivement, le porno est un reflet effectivement de la société. On le voit notamment beaucoup dans les catégories mainstream, type par exemple interracial, où c'est assez étonnant de voir, enfin c'est assez parlant de voir comment les rapports de race présents dans notre société vont être érotisés de façon pornographique.
De quelle manière, pour être concret mais poli, parce qu'il est midi et qu'il y a des oreilles chastes.
Bah, par exemple,
pas trop précis. Mais...
Par exemple, les stéréotypes de race associés aux hommes noirs, qui vont souvent être la violence, la virilité, exacerbée, ce genre de choses, vont se retrouver dans les scènes pornographiques mettant en scène des hommes noirs. Une étude que j'avais trouvée très intéressante, ils avaient démontré, je ne sais plus en termes de pourcentage, mais c'était quelque chose comme deux fois ou trois fois moins important le nombre de baisers dans les scènes interraciales que dans les scènes de personnes de couleur blanche, par exemple. Qui montre comment on met en scène justement une bestialité des hommes noirs, comment les stéréotypes vont nourrir le porno.
Céline Pic.
J'irais même plus loin, c'est même presque étonnant quand on va sur une plateforme comme YouPorn qui est des catégories raciales. Il y a une catégorie ébony, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres industries où on pourrait classer les personnes qui sont dans cette industrie en fonction de leur race, avec des stéréotypes raciaux extrêmement violents. Et Bonnie, en fait, il y a toujours une animalité de la femme noire. Il y a Asiane. Asiane, c'est la soumission, bien sûr, de la femme asiatique.
Ebony pour ébène.
Ébène, donc en anglais, ebony en anglais pour dire ébène. On est vraiment dans les stéréotypes raciaux.
La beurette.
Et par rapport beurette, donc bien sûr beurette pour
un classique
qui est très 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 repris sur Twitter. Et par rapport à ce que l'exemple que vous donniez dans votre livre sur l'homme noir qui a une relation sexuelle avec une blanche, il faut rappeler que ça fait remonter des choses extrêmement violentes, puisque avant la lutte pour les droits civiques, l'archétype de l'homme noir qui viole une blanche, c'était ce genre d'argument qui était utilisé par le Ku Klux Klan pour faire des lynchages d'hommes noirs. Les noirs étaient lynchés avant les années 60 sur la base de fausses accusations de viol de femmes blanches. Donc c'était vraiment une façon d'avoir un racisme le plus violent et le plus décomplexé. Et je suis extrêmement choquée qu'aujourd'hui, sous prétexte de fantasme, sous prétexte de sexualité, entre guillemets sexualité, on autorise ce type de catégorie. Et la dernière catégorie qui me choque énormément, c'est la catégorie teen. Donc j'étais sur YouPorn ce matin.
Donc ado.
Teen en anglais, ça veut dire ado. Sur YouPorn, aujourd'hui, il y a 200 000 films sur la catégorie teen. Donc c'est-à-dire, on fait la promotion de la pédocriminalité en montrant des corps qui sont des corps d'enfants, qui sont excitants. Et donc les gens, des millions et des millions de personnes, se masturbent devant des scènes où ce sont des femmes qui ressemblent à des enfants qui sont érotisées.
Mais Céline Pic, on a bien compris votre avis sur le porno mainstream. C'est non, il faudra peut-être l'interdire, on va se reposer la question. Mais on ne comprend pas très bien ce que vous pensez. Est-ce qu'Oser le féminisme et d'autres associations féministes pensent du porno féministe? On a l'impression que vous trouvez ça, parfois, peut-être un peu mignon et sympathique, mais pas révolutionnaire.
Alors,
dites-moi si je me trompe.
Je vais répondre à votre question peut-être par une autre question. C'est moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est la disproportion entre les deux. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle un porno dit féministe, qui représente, on en parlait avant de rentrer en plateau, on parle peut-être de 300 films sur le site d'Erika Luss.
C'est un début.
Qu'on nous cite systématiquement. Sur YouPorn, hein, c'est films extrêmement violents et extrêmement racistes, et souvent lesbophobes d'ailleurs également. On parle de millions et des millions de films.
Erika Luss, c'est payant, YouPorn, c'est gratuit.
Oui, par exemple.
Ça fait une différence quand même, ça explique le...
Mais pourtant, le porno gratuit fait des milliards et des milliards de bénéfices. Ça n'empêche pas, ça marche avec la pub, ils ont trouvé un modèle économique qui marche. Et la demande, elle est sur ce porno mainstream. Donc moi, je m'interroge et je pense que la pornographie s'insère dans une configuration, une représentation de la sexualité profondément sexiste, et que ça ne fait que la pornographie mainstream est majoritaire parce que nous sommes encore dans une société sexiste qui n'est pas capable de parler de désir féminin correctement. Et donc on a aujourd'hui un porno mainstream qui restera majoritaire. Je suis désolée de vous dire.
Olympe de Gé s'attache à parler de désir féminin. Je vous redonne la parole dans un instant, Olympe de Gé, mais on dit juste que David Courbet a une réaction, un commentaire sur ce qui vient
d'être dit. Oui, Madame Pic, je suis d'accord avec vous là-dessus, que le porno principal est sexiste, mais il ne faut pas oublier que c'est un produit culturel et de consommation et qui ne fait que répondre à une offre, à une demande, pardon. Donc c'est une offre qui répond à la demande. La société en soi est sexiste et patriarcale. Du coup, eh ben, le produit, parce que c'est un produit de consommation de masse qui génère un fric fou à plusieurs dizaines de centaines de milliards d'euros, de dollars, derrière, il ne fait que répondre à la demande. Donc, et vous demandez vous parlez que de Erika Luss, mais non, enfin, il y a Erika Luss, mais il y a des candidats royales, il y a Annie Sprinkle, il y a Ovidie, il y a Emily Jouvet, il y a Jennifer Lyon Bell, il y a Lucy Blush, il y a Erika Luss, il y a Anouchka, il y a Madison Young, il y a Mia Engberg, il y a du audio avec Olympe de G.
Et il y a,
Olympe de G. Voilà, ça existe beaucoup.
Ça fait 0,1%.
Dizaines, près d'une. Ah, mais peut-être, mais plus on en parle.
Non, mais je pose la question,
on arrive
à faire comprendre. Pourquoi on est à 0,1%? C'est ma question.
Parce que la pornographie, il y a un S à pornographie, elle est multiple, et donc, du coup, il faut aussi ne pas se contenter seulement du mainstream et ne parler que du mainstream, le grand méchant. En fait, finalement, et le grand mainstream, suit tout à fait la vague, la consommation, parce qu'à partir du moment où la consommation, la demande sera différente, le mainstream sera obligé de s'aligner sur cette demande-là, et donc aussi de changer ses préférences. Et d'ailleurs, on remarque que les préférences aujourd'hui ne sont plus exactement les mêmes qu'auparavant. Les grosses blondes siliconées avec des hauts talons de 30 cm, c'est plus tout à fait ce qui fait marcher aujourd'hui. On arrive sur des marchés de niche vraiment beaucoup
plus. Et on a la chance d'avoir une concernée.
Et puis peut-être que le porno féministe serait aussi un petit peu plus, serait un petit peu moins, serait plus nombreux. Enfin, peut-être que ça serait pas 0,1% si toutes les femmes étaient derrière et si toutes les féministes voyaient, en fait, la démarche bienveillante et positive qu'il y a dans le fait de proposer une représentation du sexe féminine. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. C'est que, du coup, on soit un petit peu à tirer des balles dans le pied, alors que c'est une initiative de femmes qui veut représenter la sexualité féminine. Le porno féministe, c'est aussi un magnifique outil d'éducation sexuelle pour les femmes. On est sous-éduqués sexuellement en ce qui concerne notre anatomie, notre plaisir, la masturbation féminine, gros tabou. Qu'est-ce que c'est d'autre que la pornographie féministe que d'essayer d'encourager les femmes à connaître leur corps, à y trouver du plaisir d'une façon saine? Pour moi, la pornographie féministe, c'est tout bénef, quoi. C'est mettre en scène des corps différents qui vont aider les femmes à se trouver belles, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur couleur de peau. Enfin, c'est vraiment, c'est un militantisme, en fait. La pornographie féministe, ce n'est pas une industrie, c'est quelque chose qui est engagé et qui est vraiment fait pour véhiculer des valeurs positives.
Comment ça se passe un tournage de porno féministe?
Vaste sujet.
Sur le préservatif, sur le consentement, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des coordinateurs d'intimité, comme ça se fait maintenant dans le cinéma tradit?
Justement, alors sur le consentement, la façon dont je vais parler, juste de la façon dont je travaille, tout simplement, j'écris un scénario, il y a des actions sexuelles précises qui sont soumises aux performeurs et performeuses en amont. Donc on en parle en fonction de leur de s'ils sont à l'aise ou pas avec. Je retravaille. Donc il y a quelque chose qui est validé. Ce qui est validé, c'est ce qu'il va se passer sur le tournage. Donc a priori, ce sont des actes avec lesquels il et elle sont d'accord. Après, sur le tournage, effectivement, il est toujours possible qu'on ne se sente plus à l'aise avec une action. C'est pour ça que pour mon prochain long métrage, j'ai décidé de travailler avec une coordinatrice d'intimité. C'est une professionnelle de l'écoute qui va être là à tout moment et elle est plein temps sur le fait de vérifier que les performeurs et les performeuses vont bien.
Fait la médiation entre la production
l'écoute des performeurs, du casting, mais effectivement aussi la médiation, parce que je réalise qu'il peut y avoir une forme un conflit d'intérêt, quoi, tout simplement. Les performeurs ont envie d'être pro, la production a envie de faire un bon film, je comprends que les performeurs puissent hésiter à exprimer un inconfort. Et c'est justement pour que ce type de situation n'arrive pas que je pense que c'est bien qu'il y ait une professionnelle de l'écoute qui vérifie, etc., et qui encadre les discussions sur le consentement. Voilà.
Romain D'Angelo, un avis sur cette nouvelle manière de tourner et sur ces métiers qui sont en train de se créer. C'est aussi ça, MeToo, il faut réfléchir à la manière dont on tourne le sexe au sens large, pas que dans le porno, mais aussi dans l'industrie traditionnelle.
Effectivement, et l'initiative d'Olympe, enfin ce que fait Olympe, c'est super, et surtout ça peut permettre à des actrices qui sont insérées dans un circuit mainstream et pour le coup ou pas forcément bienveillant et qui vont être exposées à ces situations de tournage parfois abusives, de pouvoir continuer à faire ce qu'elles font parce qu'elles ont décidé de le faire, mais dans un contexte plus bienveillant et moins exposé.
On évoquait la question du porno comme outil éducatif et on voit qu'il y a d'autres pays où c'est quand même beaucoup moins tabou. En Allemagne, par exemple, c'est en projet, hein, c'est pas du tout voté, mais c'est les sociodémocrates de Berlin, qui ont proposé que les productions servent de support éducatif à la jeunesse et que ce soit l'État qui le finance. C'est aussi ce qui s'est passé en Suède, qui a financé la production de courts-métrages féministes d'Arvid Courbet. Ça vous semble être une bonne piste de financer le porno plutôt que de le laisser aux mains de grosses entreprises peu scrupuleuses et pas transparentes, même si ça choquerait l'opinion?
Là-dessus, je peux que vous donner raison. Et puis, enfin, on pourrait faire un parallèle avec la presse, c'est-à-dire qu'avec les médias, c'est le gros problème, c'est la question du financement. Est-ce qu'on a un financement public ou pas public? Et sinon, est-ce qu'on doit payer pour avoir de l'information ou de la pornographie et pour avoir quelque chose de qualité? Et donc cette question se pose beaucoup, et notamment du côté de la pornographie alternative. Jusqu'à présent, tout est plutôt payant pour justement offrir des conditions de travail dignes aux travailleurs et travailleuses du sexe sur place, et dans de meilleures conditions de manière globale.
Céline Pic, faire du porno un outil éducatif et financé par l'État, ça vous inspire quoi?
Alors, l'éducation à la sexualité, ça devient vraiment plus qu'urgent, puisqu'aujourd'hui, les jeunes, on sait que l'âge moyen du premier visionnage du porno, c'est 12-13 ans.
11 ans pour les premières images.
Hein. 11 ans, donc c'est extrêmement jeune et c'est extrêmement violent. Donc vraiment, il devient urgentissime d'avoir une autre représentation de la sexualité, qui soit une sexualité désirante, bienveillante, joyeuse, et non pas ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube.
Comment si c'est pas de la pornographie?
Après, moi j'ai une question par rapport à l'image.
Oui.
À l'image. Je pense sincèrement que le fait de capter une vidéo est dissociante. On parle quand même d'un acte sexuel qui représente une certaine intimité. Et là, on parle encore aussi d'un scénario. Donc on est bien dans
la fiction.
D'accord. C'est de la fiction, puisque sinon il n'y aurait pas de scénario, et sinon il y aurait du désir, uniquement du désir, et donc ce serait un imprévu. Là, il y a un scénario, donc il y a une contrainte, c'est tel type de scène qu'on va faire. La question à ce moment-là qui se pose, c'est: est-ce du cinéma? Est-ce que c'est du cinéma? La différence entre
Est-ce que c'est clair pour tout le monde et pour tous les publics, la différence?
Bah, la différence que je vois qui est essentielle entre cinéma et pornographie, c'est que dans le cinéma, les scènes sont simulées. Les scènes de violence aussi sont simulées, les scènes de sexe sont simulées, sauf quand vous travaillez Monsieur Kechiche, par exemple, on pourra en parler aussi sur la façon dont il tourne un certain nombre de scènes de sexe.
Dans la pornographie, c'est jamais simulé? Si, ça arrive aussi, non?
Bah, la pénétration a réellement lieu.
D'autres, David Courbet.
Bah, le plaisir est simulé aussi. Les scènes sont coupées. Une scène qui dure 10 minutes.
Ça reste du jeu.
A duré 3 quarts d'heure, 1 heure. La difficulté avec le jeune public, effectivement, c'est qu'il est assez mûr, assez mature pour faire la différence entre fiction et réalité. Ça, effectivement, c'est un gros problème. Mais voilà, à partir du moment où l'école ne veut pas, est-ce que l'école, au contraire, devrait aller plus loin que mettre juste un préservatif sur une banane et puis tout le monde se marre? Les parents aussi doivent faire leur travail à la maison et pouvoir discuter avant le fromage des questions de sexualité.
Ce qui est pas une tâche aisée. Leur décharge, et je m'inclus dedans, c'est pas facile de parler de sexe avec un préado. Bon, c'était une parenthèse.
Tout à fait. Et puis les filtres parentaux existent, doivent se développer mieux pour les ordinateurs. Il faut aussi éduquer les parents vis-à-vis de l'ordinateur. Comment est-ce qu'on le laisse accessible? Ou le portable? Est-ce qu'on laisse un portable aussi accessible dès 10 ans à un gamin? Voilà.
Robin D'Angelo, une conclusion.
Je pense que c'est assez utopique de croire que c'est de la fiction, la pornographie. J'ai été par exemple moi sur une scène par exemple de Buquek
Non, j'allais vous demander de dire ce que c'est, mais en fait non.
C'est une scène d'éjaculation collective sur une femme. Là, il y avait 40-50 personnes. On peut pas imaginer que ce genre de scène soit tournée dans le registre du fictionnel. L'actrice va effectivement avoir 50 mecs au jour autour d'elle qui vont se masturber et lui éjaculer dessus. Donc c'est pas comme Bruce Willis dans Piège de cristal, quand il y a du sang, bah c'est du faux sang, c'est pas le sang de Bruce Willis. Là en l'occurrence, bah cette femme, c'était pas du faux sperme, et d'ailleurs bah après elle est passée 3 jours à avoir honte et à pas oser aller chez le médecin parce qu'elle avait des plaques sur le visage, et c'est faux de croire que c'est pas toutes les scènes sont comme ça évidemment.
Après, conclusion pour l'un de
après une pornographie totalement fictionnelle est possible, parce que moi par exemple avec le podcast Vox qui remporte un franc succès, on est dans de la pornographie, mais il n'y a absolument pas d'acte sexuel.
Là, c'est sonore.
C'est sonore et c'est simulé.
C'est super intéressant.
Et ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Tiens, le porno sonore, c'est
avec
presque
plaisir.
Et je vous recevrai avec plaisir. C'est presque la fin de cette émission, mais j'ai une toute dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
C'est la question rituelle du débat de midi au mois d'août. Je voudrais savoir, et c'est une question que je pose à vous quatre, avec quelle personnalité vivante ou disparue, anonyme ou non, vous aimeriez pouvoir débattre poliment ou pas d'ailleurs. Robin D'Angelo.
Je dirais mes arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents pour voir à quoi ils ressemblaient.
Des histoires à solder ou à régler.
Ouais, non, mais juste voir qui ils étaient, à quoi ils ressemblaient, comment ils vivaient, tout ça.
Céline Pic.
Andrea Dworkin, qui est une féministe américaine que J'aimerais bien ressusciter pour qu'elle m'inspire aujourd'hui dans mes luttes féministes.
David Courbet, très vite, on est en retard.
Eh ben moi, je dirais plutôt Charb, l'ancien directeur assassiné de Charlie Hebdo. Bon, ça casse l'ambiance, mais parce que justement, c'est un passionné de sexualité, et puis jamais avare d'une blague de cul pour détendre l'ambiance. Et puis, ça permet surtout de dire aujourd'hui que je suis toujours Charlie.
Et je me joindrai à la discussion, si vous voulez bien. Olympe de G, même question.
Olympe de Gouges, mon idole. J'aimerais savoir si elle serait féministe pro-sexe aujourd'hui.
Merci, vaste question. Merci à tous les quatre et merci à l'équipe du Débat de Midi, à la technique aujourd'hui Serge Viguier, à la réalisation Lucie Lemarchand. Demain, dans le Débat de Midi, on se demandera ce que c'est que cette France moche dont on nous parle. Vous pouvez commencer à réagir et à poser vos questions sur le débat de demain et réagir à celui d'aujourd'hui sur franceinter.fr, à la page Le Débat de Midi et sur Twitter, hashtag Le Débat de Midi.